En 10 ans, les bouchons ont augmenté de 50% en France. En cette saison, ils peuvent durer jusque très tard dans la nuit.
Le temps perdu se mesure en kilomètres. Les kilomètres de bouchons qui paralysent la ville, matin et soir.
On considère qu'une heure passée dans les transports coûte 11 euros à la société.
Vous écoutez Radio Campus Montpellier, 102.2.
Hello, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier et c'est l'heure de la chronique documentaire. On va passer la prochaine demi-heure ensemble. Alors que vous soyez dans les bouchons, encore au travail ou chez vous, restez connectés, ça va commencer tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux reportages. D'abord, un projet radio réalisé par deux jeunes de Montpellier, intitulé « Ulysse dans les temps ». Ce vendredi, c'est l'ouverture de la billetterie du festival Illuminé. À cette occasion, je suis allé les interviewer et c'est ce qu'on écoutera ensemble dans une deuxième partie. Donc, je me suis rendu à l'écoute publique du projet Ulysse. Confortablement installé dans mon transat, j'ai été transporté au bord de la plage et j'ai été impressionné par ces jeunes. Puisque le projet Ulysse sur les temps, c'est quatre jeunes, Mandy, Salia, Thaïs et Yaya, qui vont faire deux périples en mer pour interviewer des personnes qui défendent l'environnement. Une médiatrice de l'aire marine protégée du Cap d'Agde, une animatrice de la LPO, aussi le personnel du Séquarium et pour finir, ils finiront au Festival d'Auto. Pour créer un documentaire fiction, où nous allons suivre le périple d'Ulysse qui, après une dizaine d'années d'errance au bord du voilier, laisse dire, arrive dans le golfe de Lyon. Ulysse y découvre le désastre écologique qui est devenu la mer Méditerranée. Grâce aux intervenants, nous apprenons comme Ulysse que les dégâts causés par les humains dans les temps de l'eau sont énormes, mais également les manières de les réparer. Ce projet s'est déroulé du 15 au 19 juillet à l'initiative de l'association Ouapadi en partenariat avec l'association Cap au Large. Et tout de suite, après cette présentation, écoutons le reportage. Qu'est-ce que tu dirais à une autre personne pour lui donner envie d'écouter ?
Eh ben, je dirais que c'est génial et c'est intelligent, ça nous apprend beaucoup de choses et ça nous apprend aussi qu'il ne faut pas polluer la planète.
Bravo, bravo.
Bravo.
Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ?
Donc, je m'appelle Jérôme. Je suis éducateur.
Alors moi, je suis une amie des personnes qui étaient embarquées dans cette aventure.
Alors moi, je suis Fanny, donc je travaille au Festival d'Auto à la communication.
Alors Véronique Baudot, je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse en direction territoriale.
Repartir la nuit, là, c'était super.
À la rame.
À la rame, c'était tellement beau et tout, on est rentré.
Magnifique.
Ouais.
Quel rapport vous avez avec ce projet ?
Je suis venue par la curiosité, en plus de l'invitation qui était sympathique, je suis venue pour la curiosité de cet objet radiophonique, parce que c'est quelque chose qui me sensibilise, autant la thématique que l'objet radiophonique. Donc j'avais envie d'écouter ce qu'était le projet, qui était aussi le vécu d'une amie pendant cette période.
Les interviews sont hyper riches.
Ah ouais, nous aussi on apprend plein de trucs.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce documentaire sonore ?
Alors c'était très fort parce que j'ai trouvé que la portée pédagogique est incroyable, que la qualité d'interview est folle, que c'est un support qui donne envie d'être diffusé pour que ça bénéficie à plus de jeunes. Je suis voilà, par ailleurs maman et j'ai envie que ma fille l'écoute, qu'elle l'écoute avec ses amis et qu'elle se saisisse d'une partie de cet outil formidable et puis qu'elle comprenne l'expérience que ça a pu être pour les personnes qui ont participé à ce projet.
Donc moi ce que je peux vous dire de cette écoute, c'est comme d'habitude, c'est un travail fabuleux qu'il fait auprès d'un public qui n'a pas forcément accès à la radio, à l'écriture, et à chaque fois, le résultat est fabuleux. Voilà, on passe une demi-heure à écouter un travail énorme qui est fait par des jeunes et par les accompagnants, hein, parce que c'est aussi un gros travail d'accompagnement, mais où ces jeunes arrivent à nous livrer soit ce qu'ils sont, soit à nous livrer une vision de leur monde. Voilà, parce que nous, on a fait, je ne dirais pas qu'on a fait un peu notre temps, mais c'est eux l'avenir. Et qu'il y ait une prise de conscience telle au niveau de l'écologie, surtout au bord de la mer, puisque nous sommes à Montpellier. Moi, j'ai trouvé cette émission à la fois instructive, émouvante, avec des jeunes très engagés. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça génial.
Je suis très fier des jeunes qui m'ont permis de partir avec eux et vivre cette aventure avec eux. Et c'était des grands moments. Des moments que je pense qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et c'était chouette d'entendre à nouveau nos voix et je me revoyais avec eux sur le bateau. Je remercie les jeunes et les collègues.
Et il y a des très jolies voix, enfin, hyper belles, bien posées, même dans celles qui sont plus spontanées, qui ne sont pas forcément travaillées, posées, etc.
J'entends ta petite voix qui s'envole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétanas qui s'abonnent, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer là.
Je peux vous prendre deux minutes
Oui.
Du coup, vous êtes le festival de l'Étanto. Est-ce que vous pouvez revenir un peu comment vous avez accueilli les jeunes?
Et c'est très simple, en fait, le festival d'Auto, c'est un festival qui a 35 ans et qui est un festival de musique actuelle du monde et puis qui a la particularité d'être très très engagé sur l'écologie, en gros pour essayer de trouver des façons de proposer des concerts, de faire la fête, mais en polluant le moins possible. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un coup de fil comme ça, un peu à l'arrache de Manon, de Wakadi, qui me parle de son projet bateau, radio bateau. Et en fait, je trouve ça super, je trouve ça génial. Et je lui dis, mais banco, quoi. Vous allez être un peu de la presse, je vous fais des accréditations. Vous venez au festival. Et puis, ce soir-là, le soir où ils sont venus, en fait, il y avait Tiff et Yamé.
J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma inata.
Qui vient à la proc, quoi. Donc c'était quand même super aussi pour les jeunes d'allier à la fois de faire une suite à leur voyage autour de l'écologie du bassin de Thau, parce qu'on parle vraiment de ces questions au festival, mais en même temps de pouvoir assister à des concerts rap. C'était vraiment une super opportunité. Ils ont été très investis. Enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir que quand je les ai accueillis, tout de suite, ils étaient à fond sur les questions, plein de questions, vraiment comme des vrais professionnels. Et en fait, ça nous a vraiment enrichi nous aussi. Et puis surtout, ça nous a ouvert des pistes. On a envie de continuer à faire des choses avec eux. C'était vraiment une très belle expérience.
Vous avez réussi à tout allier quand même, Tiff, Yamé, le rap, l'écologie, les jeunes.
On a marqué pas mal de points.
Là, pour les jeunes, vous avez tout.
On a eu tout bon, j'espère. Non, puis c'est une vraie rencontre. En fait, ils ont vu aussi les coulisses d'un festival. C'est assez fort. Il y a toute une ambiance, une émotion. Je crois qu'ils ont été. Je pense qu'ils en ont un beau souvenir, mais qu'on a autant un beau souvenir qu'eux.
On est toujours sur Radio Campus Montpellier et à présent je voulais vous parler du festival L'Illuminé, un festival de films d'animation qui ouvre sa billetterie ce vendredi. Il se tiendra du 29 novembre au 1er décembre dans plusieurs salles et cinémas de Montpellier. Ce festival vous fera découvrir l'animation en vous proposant un regard innovant avec des docus animés, des mangas animés et des parcours de plusieurs cinéastes. Le festival présente plusieurs courts-métrages des écoles d'animation et de cinéma de la région à un prix... Et un prix sera décerné au meilleur.
Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. L'expérience sonore.
Avant d'écouter l'interview, je voulais revenir avec vous sur la filmographie de Naoko Yamada, qui est réalisatrice japonaise. Le festival L'Illuminé présente le travail de Naoko en projetant les trois films dont je vais vous parler, notamment son dernier film, The Color Wizzing, qui n'est pas encore sorti en France et qui sera en avant-première au festival. Naoko a un parcours fulgurant puisqu'elle est passée par tous les échelons de l'animation pour devenir réalisatrice. Avec son premier film A Silence Voice, sorti en 2016 au Japon et en 2018 en France, A Silence Voice l'a fait connaître en France et dans le monde de l'animation. A Silence Voice, c'est l'histoire de Nashimiya qui est en primaire et harcelée par Ishida. parce qu'elle est malentendante. Des années après, Ishida, qui est en terminale, rempli de remords, il essaye de retrouver la trace de Nishimiya pour lui présenter ses excuses. Puis, en 2016, Naoko réalise Lise et l'oiseau bleu. On y retrouve l'histoire de deux personnages, Nozomi et Mizore, amis mais également rivales. On va les suivre dans la préparation de la compétition musicale, où elles essayent de se surpasser. En 2024, Naoko Yamada revient avec le film The Color Wizing, où elle continue à parler de la période de l'adolescence à travers la musique, cette fois avec une jeune fille, Kimi, qui voit les émotions et la musique en couleur. À l'image de Naoko Yamada, le festival L'Illuminé gravit les échelons et vous propose pour cette quatrième édition un festival complet en termes d'artistes et de style. Alors, passons sans plus tarder à l'interview avec les personnes qui ont créé le festival.
Donc, je suis Jérémy Duc, qui fait partie de la direction artistique du festival et notamment des programmes de court-métrage.
Bonjour, Caroline Barraud, donc, qui fait partie également de la direction artistique du festival et plus précisément aussi sur la coordination, relations, partenariats et presse du festival.
Donc avec vous, je voulais revenir déjà dans une première partie un peu sur le lancement du festival parce que c'était pendant la période Covid, donc savoir un peu comment l'idée était venue et comment ça s'était passé.
L'idée est venue de Caroline, qui avait cette idée depuis un moment, je crois dès 2019 ou 2018 même 2018 quand on s'est rencontrés. Et donc moi le projet-là m'a tout de suite bien plu et donc on a commencé à travailler sur une première édition qui a pris plusieurs formes et jusqu'à arriver à celle de la première édition autour de Jean-François Laiguioni. Et donc c'est arrivé en 2020 et il y a eu pas mal de reports. De la programmation, on a changé, on a beaucoup adapté. C'était un peu casse-gueule, on va le dire très clairement. Mais on a réussi quand même à faire une première édition sous couvre-feu. C'était très sympa.
Du coup, vous projetiez des films pas le soir. Comment ça se passait concrètement?
Ça paraît déjà très loin, mais on avait des séances plein air, par exemple, qu'on devait commencer à une fois que la nuit se couchait, donc en mois de juin, c'est ce qui est très compliqué, et finir avant 23h pour que le public ait le temps de rentrer chez lui avant le couvre-feu. Donc voilà, on a commencé des films quand il faisait encore jour, donc on voyait pas grand-chose. Mais bon, c'était folklorique, c'était sympa, les gens étaient plutôt contents. Nous, c'était pas la meilleure manière de promouvoir des films. Plus on s'est dit, en fait, si on arrive à le faire dans ces conditions-là, on peut le refaire dans plein d'autres conditions. Et voilà, et donc en fait, on n'a pas cessé de réinventer un peu le festival après ça, à changer les périodes, ce qui n'est pas forcément toujours positif pour le public. Mais voilà, et essayer de différentes formes pour s'adapter vraiment à la réalité du territoire et de ce que demande le public et de nos envies personnelles.
Et justement, par rapport au montage financier, comment vous avez réussi à convaincre, durant la période Covid, d'avoir un soutien financier ?
La première édition, elle a été un peu faite avec de l'huile de coude, à la force du poignet. Et c'est à partir de la première édition qu'on a pu commencer à solliciter les partenaires financiers de l'association, parce que ce festival, il est porté par une association, Brandapa, qui travaille déjà depuis de plus de 12 ans sur le territoire. Et donc, ce positionnement de l'association, l'existence de l'association, de ses actions culturelles sur le territoire dans les quartiers, nous a permis de valoriser une nouvelle action qui était le festival. Donc c'est vrai qu'on a été très kamikaze sur la première édition, et puis petit à petit, il a fallu convaincre un par un les partenaires, les collectivités, donc villes, métropoles, régions, départements, et puis aujourd'hui même au niveau DRAC. Et puis pour arriver cette année, par exemple pour une quatrième édition, avec demande auprès du CNC, du Centre National du Cinéma, et a pu encourager, soutenir une partie de l'activité du festival qui est notamment toute la partie professionnelle et le soutien aux auteurs, aux créateurs émergents sur le territoire de Montpellier et de sa métropole.
Et du coup, cette année, vous avez donc un peu changé les dates. Cette année, le festival se déroule en novembre. Ce que j'ai compris, sur les périodes précédentes, il se déroulait en avril ou juin. Pourquoi ce changement de période ?
Alors, le basculement, il s'est fait déjà l'année dernière. Lors de la troisième édition, effectivement, le festival avait lieu en avril, qui était la période, pour nous, la plus propice en termes de programmation, de choix des films, en termes de public également, notamment pour les projections scolaires. C'était ce qu'il y avait de plus fonctionnel pour pouvoir prendre le temps de communiquer avec les écoles.
Et c'est là aussi où il y avait moins de propositions culturelles, d'autres événements sur cette période-là, donc ça nous paraît, c'est la période la plus propice. Mais il y a d'autres facteurs qui font que...
Oui, tout à fait, et c'est pour ça que l'année dernière, en fait, nous avons été un peu victimes de la précarité du festival, puisque c'est un festival encore très précaire en termes de moyens financiers. Et du coup, on a dû décaler, pour des problématiques de trésorerie, hein, décaler le festival plutôt sur la deuxième partie de l'année, voire fin d'année, à la demande notamment aussi des collectivités, partenaires, etc. On n'est pas les premiers à faire ça, donc les gros événements culturels à Montpellier se sont tous déplacés aussi en fin d'année, donc ça a fait une belle brochette d'événements qui se succèdent, donc il faut un peu jouer des coudes pour être visible, pour la communication, pour l'attention des collectivités, pour l'attention des autres partenaires, des écoles, donc c'est plus complexe pour travailler le public et avoir de la visibilité. Après, ça nous permet de prendre moins de risques financièrement.
Aujourd'hui, là, on voit dans vos choix, on a des réalisateurs, énormément de réalisateurs européens et français. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque part une French touch de l'animation ou un peu un style qui se dégage au niveau international?
Alors, je ne sais pas s'il y a une French touch. Je sais juste qu'on a quand même un pays qui développe beaucoup son cinéma et son cinéma d'animation. Et surtout, on est sur un territoire donc, d'Occitanie où les professionnels et où les étudiants sont extrêmement présents et restent dans la région. Donc, c'est ce qui nous paraissait intéressant et important, c'est qu'un festival puisse être présent sur le territoire pour faire la promotion de ce cinéma-là. Après, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de coproductions et que les pays entre eux font de plus en plus de productions entre elles. Donc, ça, je pense qu'il y a un mélange des genres et c'est ce qui peut être très intéressant.
Après, sur le territoire européen, effectivement, la France, avant l'Allemagne, enfin, suivie de l'Allemagne, est le pays le plus important en termes de production de films d'animation. Alors je sais pas si c'est French touch, en tout cas c'est une tradition et une pratique qui est liée aussi aux moyens de financement du cinéma en France, particulier du CNC, qui permet aussi à ces œuvres d'exister. Après, je lisais quelque chose là récemment sur le film Flo, qui est un film letton, hein, le réalisateur est letton, et qui disait que finalement la Lettonie, proportionnellement à son nombre d'habitants, produisait beaucoup plus de films par habitant que la France et l'Allemagne réunies. Donc vous voyez,
Ce festival, c'est aussi un espace privilégié pour des étudiantes et des étudiants de Montpellier, de Toulouse. Donc vous avez 5 écoles qui proposent des films dans votre festival. Comment vous les avez sélectionnés, sur quels critères? Et surtout, il y a surtout 2 écoles qui sont 2 fois sélectionnées, si je peux dire, puisqu'on a 2 fois leur film dans le festival.
Mais nous, notre intérêt, c'est de vraiment montrer la production locale et de montrer cette nouvelle génération qui grandit dans des écoles du coin. Donc souvent, on fait une sélection parmi les films envoyés par chaque école. Et donc, on va choisir soit un coup de cœur, soit un film qu'on trouve intéressant pour sa narration ou tout à fait contraire pour son style. Donc voilà, ou alors parfois les deux, mais c'est souvent le cas. C'est le moment du coup de cœur.
Effectivement, c'est important ce panorama des écoles de cinéma d'animation. Après, Cette année, par exemple, toutes les écoles n'ont pas pu nous envoyer à sélection des films finalisés, des films de fin d'études. Donc, du coup, c'est pas que la sélection est biaisée, mais on a dû effectivement modifier. Donc, c'est ce que Jérémy disait aussi sur le festival. Le festival, on l'adapte d'année en année. Et cette année, ce programme film d'école, eh bien, on a dû l'aménager. Le festival, je crois, a cette qualité de proposer des films, des séances pour tous les publics, donc adultes, enfants, en famille, étudiants, comme je disais, un peu plus risqués, qu'on va peut-être voir plutôt le soir à 23h que le matin à 11h. Mais en tout cas, je pense qu'on accueille le public dans une grande diversité. Et comme on souhaitait le préciser aussi cette année, on aimerait aussi pouvoir accueillir le public après les séances, dans une salle que l'on va dédier entièrement à ça, qui sera la salle Pétrarque. Donc prenez votre temps, le temps des films, et prenez du temps ensuite pour venir discuter et rencontrer les invités et l'équipe.
Parce que c'est du coup des animations pour les jeunes publics et aussi pour les adultes avec des super documentaires dont la billetterie ouvre le 8 novembre pour le Centre Rabelais et les différentes salles de cinéma auront leur billetterie propre. Je vous invite à prendre vos places. et avec des tarifs étudiants, donc très bon prochain festival.
Radio Campus Montpellier 102.2 FM. L'expérience sonore.
Pour aujourd'hui, c'est fini, mais on se retrouve lundi prochain à 17h pour les prochains reportages. Restez connectés à l'antenne, puisqu'à 18h, on continue avec l'émission Le Rap C'est Cool. Je voulais remercier Tom à la régie qui nous a accompagnés pendant ce peak time. Pour l'heure, on se quitte en musique avec le titre City et Buoni du groupe Maneskin. Très bonne fin de journée sur Radio Campus Montpellier.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Sei fuori di testa, ma diversa da...